enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Guillaume Erner. On le disait tout à l'heure, donc depuis samedi, des frappes turques sur les Kurdes syriens, protestation des États-Unis et de la France. On va parler de la politique étrangère turque et puis surtout des ancrages géopolitiques entre l'Est et l'Ouest, point d'interrogation, avec Didier Billion. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On va revenir dans un instant sur l'actualité, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que géographiquement, évidemment, la Turquie est un pays carrefour entre l'Asie et l'Europe, entre le Proche-Orient et la Méditerranée. Elle a des liens très complexes ou heurtés, mais réguliers avec le monde slave. Elle avait combattu du mauvais côté durant la Grande Guerre. Elle s'était européanisée à marche forcée sous Atatürk avant de rester sagement neutre durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis on verra quelle nouvelle page peut-être a été tournée en 1945. Alors au fond, pour l'actualité immédiate, comment interpréter ces attaques turques en territoire syrien contre les Kurdes syriens, justement?
Il y a deux aspects complémentaires. Le premier, c'est que les Kurdes de Syrie, qui aujourd'hui sont les seuls capables de combattre Daesh au sol, sont regroupés derrière le parti de l'Union démocratique. Ce parti est la projection syrienne du parti des travailleurs du Kurdistan, qui lui est composé de Kurdes de Turquie. Et le parti des travailleurs du Kurdistan, le fameux PKK, est considéré comme l'ennemi public numéro un par les autorités turques. Donc par projection, les autorités turques considèrent que les Kurdes de Syrie font partie de la même organisation terroriste, puisque c'est le qualificatif qui est apposé par les autorités turques à ce parti. Et donc on assiste à un jeu à front renversé, puisque aujourd'hui les Kurdes de Syrie, du parti de l'Union démocratique, sont soutenus par les puissances occidentales, notamment les États-Unis et par les Russes. Et la Turquie, sur ce dossier précis, fait jeu seule, puisqu'elle bombarde les positions du PYD. Donc nous sommes, une fois de plus, malheureusement, en Syrie, dans un jeu de guerre par procuration, où chacun tente de défendre ce qu'il considère comme ses intérêts nationaux, mais l'enjeu est véritablement inquiétant. Pour la Turquie, évidemment, c'est tout faire pour empêcher qu'une entité kurde autonome puisse se constituer en Syrie.
Alors il y a d'ailleurs une actualité intéressante, c'est qu'il y a quelques jours, l'Arabie saoudite avait dit qu'elle pourrait aller au sol, ce qui évidemment serait très nouveau, et qu'on parle d'une sorte d'alliance là aussi tactique entre Ankara et Riyad la matière.
C'est plus qu'une alliance tactique.
Avec des
avis.
Avions d'ailleurs saoudiens apparemment insirliques, c'est-à-dire en Turquie.
Oui, bien sûr, absolument. Nous savons par exemple que l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar soutiennent officiellement, publiquement, l'armée de la conquête, qui a des positions importantes dans le nord-ouest de la Syrie, qui est actuellement d'ailleurs sous le coup des bombardements russes, assez massifs. Donc c'est une alliance plus que tactique, parce que là encore, chacun, si vous me passez l'expression, a ses poulains en Syrie, chacun joue un jeu à front renversé, et évidemment la Turquie considère qu'aujourd'hui, tout à son désir obsessionnel de chasser Bachar el-Assad du pouvoir, considère que tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Ceci étant, les moyens utilisés sont pour le moins contestables.
Comme on dit en anglais ou plutôt en américain, chacun a son agenda.
Absolument.
Et alors, donc, une chose intéressante, je me rappelle il y a très longtemps, des reportages auxquels on procédait souvent en Turquie, et c'était très intéressant. Il y en avait un très long, d'ailleurs, d'une heure et demie, qui était intitulé par votre serviteur « La Turquie entre l'Est et l'Ouest ». Et la question n'est pas résolue quelques années après.
Bien, c'est-à-dire qu'on est toujours dépendant de sa propre géographie quand on veut déployer une politique extérieure digne de ce nom. Pour le cas de la Turquie, il est vrai que c'est assez compliqué. Il est plus difficile d'avoir pour voisins l'Iran, la Syrie ou l'Irak que d'avoir la Belgique, l'Italie ou l'Espagne. Ça, c'est déjà une première difficulté. Ceci étant posé, on a beaucoup glosé au cours des dernières années sur une moyenne orientalisation, une ottomanisation, pardonnez-moi, de la politique extérieure de la Turquie. Pour ma part, j'ai toujours été assez réticent. Je pense qu'effectivement, la Turquie a une politique multidirectionnelle. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, ces alliances fondamentales sont quand même des alliances occidentales, qu'on le veuille ou pas. Quelques exemples pour mémoire. À la fin de l'année 2010, lors du sommet de l'OTAN qui se tenait à Lisbonne, les autorités politico-militaires de l'OTAN ont demandé l'autorisation à la Turquie de déployer ce qu'on appelle des radars de préalerte dans le dispositif antimissile, dans le bouclier antimissile. Eh bien, immédiatement, les autorités turques ont accepté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en Turquie des radars de préalerte de ce bouclier antimissile. C'était véritablement la marque d'un attachement à ces alliances fondamentales. Très récemment, à la fin du mois de novembre, quand un avion russe a été abattu par des chasseurs turcs, qui a créé quand même une tension diplomatique très importante, je pense que tout le monde s'en souvient, eh bien, le jour même, la Turquie a demandé une réunion au rang des ambassadeurs de l'OTAN, qui s'est tenue effectivement dans l'après-midi à Bruxelles, et l'OTAN a marqué son soutien à la Turquie. Donc on voit, à partir de ces deux exemples, on pourrait les multiplier, qu'en réalité, même s'il y a une volonté turque incontestable de diversifier les axes de sa politique extérieure, je pense pour ma part que ces alliances fondamentales restent profondément ancrées auprès des puissances occidentales.
Alors on pourra vous opposer évidemment, Didier Billion, je note l'Irak 2003 où la Turquie avec grande sagesse a refusé de voir circuler les troupes américaines dans une affaire aussi dévastatrice sur le plan diplomatique, et puis Chypre 74, pays membre de l'OTAN qui occupe depuis 1974 38% d'un pays tiers qui serait la Bolivie, serait la même chose. C'est pas très otanesque.
Vous avez raison, mais pour le coup, en 2003, la décision n'était pas une décision de l'OTAN, mais une décision unilatérale de la part de l'administration Bush. Il ne vous a pas échappé qu'à l'époque, d'autres membres de l'OTAN, tels par exemple la France ou l'Allemagne, eux-mêmes avaient contesté la légalité, la légitimité de cette invasion unilatérale des Américains. Et pour le cas de Chypre, effectivement, mais il faudrait alors y consacrer une édition en tant que telle. Factuellement, vous avez raison.
C'est un sujet en soi. Alors, en ce qui concerne, alors membre de l'Alliance Atlantique, évidemment, depuis 50 ans, puis elle a eu des tendances, après les bouleversements internationaux, après la mort de l'Union soviétique, vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Asie centrale ex-soviétique, et y compris d'ailleurs le Caucase azerbaïdjanais.
Oui, c'est très important, effectivement, après l'implosion de l'Union soviétique, au moment de la constitution des républiques centra-asiatiques, la Turquie a été prise d'une sorte de frénésie, redécouvrant ce qu'elle appelait à l'époque ses cousins turciques, c'est-à-dire des populations de langue turque. Entre parenthèses d'ailleurs, sachons quand même qu'un citoyen d'Istanbul, plus il s'éloigne de la Turquie, va avoir du mal à se faire comprendre par ses cousins turciques, sauf en Azerbaïdjan, où là il y a une véritable proximité géographique. Alors effectivement, tant au niveau culturel, linguistique et surtout bien sûr économique, il y a eu volonté de la part de la Turquie dans les années 90-95, en gros, de s'implanter massivement dans ces pays d'Asie centrale. Sauf que ces pays d'Asie centrale qui sortaient de décennies de tutelle soviétique n'avaient pas envie de repasser sous la tutelle de quiconque. Et puis, surtout, la présence russe a été passée par perte et profit un peu rapidement. La Russie a toujours une forte implantation dans ces républiques et donc, en réalité, depuis lors, je ne pense pas que les Turcs aient abandonné leur projet en direction de l'Asie centrale, mais ils sont passés de quelques illusions à une forme de réalisme assumé, et donc ils remettent ces perspectives de bonne entente avec les républiques d'Asie centrale en perspective, et si vous me passez l'expression, ils ne sont pas devenus les rois du pétrole dans ces régions.
Voilà, il faudrait reparler aussi de la relation entre Ankara et Moscou, particulièrement d'actualité, ce sera sans doute pour une autre fois. Merci Didier Billion, donc franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger, et Guillaume, demain, de toute façon, nous parlons, le hasard fait bien les choses, de la Russie et le pouvoir politique et la société, avec notre invité Eugène Berg.